On était en train de regarder cette double participation au sacerdoce de Christ. La première, qui est fondamentale, mais qui est la principale, c'est la participation baptismale. Et l'autre, celle du sacerdoce ministériel. L'Église est un peuple organisé, comme dira saint Paul, un corps. Il y a la tête, mais il y a ses membres, et entre les membres, il y a un ordre. Alors, tous sont baptisés, tous sont appelés à participer au sacerdoce de Christ. Le caractère baptismal, le caractère est fondamental. C'est un appel à participer au sacerdoce de Christ, une capacité de devenir instrument de Christ. Mais entre tous ces baptisés, il y a un ordre. Et cet ordre, il est réalisé par cette autre participation du sacerdoce de Christ, qui est celle du sacrement de l'ordre. Vous voulez. Le sacerdoce du Christ est participé dans une complémentarité. Le sacerdoce du Christ est participé dans l'Église dans une complémentarité entre les fidèles et les prêtres. Mais c'est important de comprendre c'est que le prêtre est d'abord un fidèle. Donc, cette complémentarité fait que c'est dans leur unité que la participation au sacerdoce du Christ va pouvoir se réaliser. Et c'est très manifesté dans l'Eucharistie. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, donc il participe, jouer à la mission de pasteur de Jésus, et surtout pour offrir le sacrifice eucharistique à Dieu au nom du peuple tout entier. Tandis que les fidèles, de par leur sacerdoce royal, qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie, concourent. Voilà la complémentarité au niveau de l'Eucharistie. Voilà le troisième sacrement. Et il y a une complémentarité au niveau de l'Eucharistie. Les fidèles concourent à l'offrande de l'Eucharistie. Ce n'est pas pour rien que le pape a demandé que soit mise en valeur la procession des oblats. Pour qu'on montre bien la place des fidèles dans l'offrande d'Eucharistie. Exercent leur sacerdoce propre par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte et leur renoncement et leur charité effective. Donc vous voyez, toute leur vie, qui est l'exigence même de l'œuvre de la grâce en eux, toute leur vie aura une dimension sacerdotale. Toute leur vie va avoir cette dimension sacerdotale sur tous les hommes. Tandis que le sacerdoce des ministres, il est pour permettre aux fidèles d'exercer leur sacerdoce dans l'Eucharistie. Enlever la consécration à la messe, vous ne pouvez pas offrir l'Eucharistie. Il y a donc une complémentarité. Il y a des hommes qui ont été choisis pour que par eux, c'est un mystère, le fidèle puisse offrir l'Eucharistie. C'est le mystère de Jésus qui est derrière. Puisque toute ma vie n'a de prix que par le Christ. C'est normal que je passe par le sacrement du Christ. Le prêtre est comme l'instrument, celui par qui les prières des fidèles sont offertes à Dieu. Et donc, il demandait aux fidèles d'accepter cette médiation du sacerdoce ministériel, et il demandait aux ministres d'être le pont entre la prière des fidèles et son Seigneur. Et là, je pourrais te poser la question, hein, mais c'est vraiment un mystère de charité. Hein, cet ordre qu'il y a entre les deux, c'est pour qu'il y ait plus d'unité dans le peuple. Et le fait que les fidèles soient obligés, dans le dessein de Dieu, de passer par le prêtre, et que les prêtres soient tenus d'agir pour les fidèles, c'est un mystère de charité. C'est pour qu'on aille plus loin en charité. Que cette participation du sacerdoce du Christ aurait très bien pu être lui, nous sommes tous fidèles. De temps en temps, et ça c'est la position des protestants, eh bien, un des fidèles dans le peuple est choisi pour faire la mission, pour prier au nom des autres. Vous voyez, ça c'est la position protestante, où nous sommes tous fidèles. Il n'y a pas d'ordre. Que la participation sacerdotale du Christ, elle est unique. C'est la participation baptismale. Alors, comment est-ce qu'on va faire quand on va prier ensemble? Eh bien, que l'un de nous qui veut bien monte à l'autel. Ça se passe. Et au moment, par exemple, quand il y a la scène, évidemment, il y en a qui ont fait de la théologie, les pasteurs, bon, on leur a confié une charge. Ils ont la charge, mais ils l'exercent comme les autres, fidèles. Ils ont un mandat, c'est entendu, ils ont été choisis par leur peuple, et ils sont prêtres de ce peuple. Mais vous voyez, par le choix du peuple, c'est pas par le choix du Christ. Oui. Alors, c'est l'un des fidèles qui va agir au nom de l'Assemblée. Il y a eu ça dans l'Église catholique, hein, où on devient, on supprime l'ordre sacerdotal, on supprime l'ordre. Le prêtre, fonction, en fait, c'est pour dire, il n'a plus, et il n'a pas un caractère, le sacerdoce ministériel, c'est un autre caractère. Il reçoit, il participe d'une façon particulière, de façon d'une différence essentielle. Donc, c'est vraiment autre. Il y a une participation qui est autre. Il y a une qualité différente. Tu sais que il a en lui une capacité de conduire la communauté et d'offrir le sacrifice de l'Eucharistie. C'est la différence avec les protestants qui, eux, pensent et croient au sacerdoce baptismal. C'est peut-être eux, d'ailleurs, qui ont assisté le plus là-dessus, au Luther, assez grossièrement. Mais, assistant, nous sommes tous prêtres. Se référant à l'Apocalypse, se référant à Saint-Pierre. Nous sommes tous prêtres, c'est ce que l'Église affirme. Oui, nous sommes tous prêtres. Il n'en reste pas moins que parmi les prêtres, certains reçoivent un rôle propre dans l'Église. Et ce rôle n'est pas tel qu'ils sortent et sont pas à l'égalité. Ce n'est pas du tout le problème. C'est qu'il y a une participation différente. Participe d'une autre manière. Prenez le cas du mariage. Autrement la femme, autrement l'homme participe à l'unité de la famille. Bien, idem dans l'église, autrement le fidèle, autrement le prêtre. De sorte que l'un et l'autre font une œuvre commune qui est le mystère eucharistique. Et ça, c'est important. Hein. C'est d'ailleurs l'argument qu'a pris le pape pour parler du célibat sacerdotal dans son encyclique sur la femme, en montrant que le prêtre était pour l'Église, devait recevoir l'Église comme l'épouse. Et donc, il devait, par son état, montrer qu'il était pour elle. Et ça a l'air de rien, mais c'est une complémentarité, c'est un mystère. Et on ne peut pas le régler comme ça. Il faut recevoir dans la foi qu'il y a un double caractère. Caractère baptismal, caractère sacerdotal. Et que ce caractère nous scelle, nous marque. Et c'est une marque du Christ qui nous transforme. Saint Thomas dira, touche notre intelligence pratique. Nous donne comme une puissance, une faculté nouvelle, une capacité d'être l'instrument du Christ dans le sacerdoce fidèle et dans le sacerdoce fidèle. Et donc c'est une participation distincte. L'Eucharistie, vous voyez, elle est comme une perfection. Alors, là je laisse la part de roi, c'est pas à celui qui va toucher l'Eucharistie, mais ce qu'il faut regarder là, c'est ce que nous disions ce matin du sacrifice et du sacrement. Ce qui nous est donné, et Dieu nous donne un don qui n'est autre que son Fils, pour que nous puissions le lui offrir. Pour voir ce que c'est, pour que nous puissions le lui offrir, et en le lui offrant, obtenir tout. Jésus, qui se donne pour que nous recevions tout du Père. Donc, le mystère de l'Eucharistie, c'est vraiment l'acte sacerdotal du peuple qui offre le sacrifice, qui n'est autre que celui du Christ, pour le monde entier. C'est pas pour rien qu'on a remis en valeur l'oratio fidelium, la prière universelle, comme on dit, la prière des fidèles. C'est la prière des fidèles. Elle devrait être produite, elle devrait être formulée, elle devrait être préparée par les fidèles, présentée par le diacre, présentée par le ministre, mais préparée par les fidèles. C'est la prière des fidèles. C'est la prière du sacerdoce des fidèles. Puisqu'ils sont prêtres, ils prient. Puisque tu m'as fait prêtre, je crois que c'est très important d'assister à l'Eucharistie dans la dimension sacerdotale. De même, moi, je ne vais pas monter à l'autel si je me dis peut-être qu'il va y avoir la consécration, peut-être qu'il n'y aura pas. Non, je ne vais pas commencer, parce que ça ne va pas. Il faut que je sois sûr. Alors, je me présente et obéissant à l'Église, rentrant dans l'attention de l'Église, j'obéis et puis c'est tout l'Eucharistie. Il se réalise l'Eucharistie. Mais je me présente non pas comme un fidèle, c'est pas pour rien les vêtements, pour montrer que c'est pas en mon nom les vêtements l'Eucharistie. Célébration, c'est pour montrer qu'on agit, qu'on est mandaté. Alors, c'est à cause du mandat. Alors, ce mandat me permet d'agir. Eh bien, le fidèle doit agir avec son mandat, comme prêtre. Tu m'as confié un peuple. Eh bien, écoute ma prière pour eux. Ça, c'est la force du prêtre, puisque Dieu veut que ce soit par notre prière qu'il donne sa grâce. Ça prouve qu'il veut nous écouter pour eux. Ça prouve qu'il nous faut prier pour eux, car si nous prions pour eux, ce qu'il veut leur donner, il ne peut pas le leur donner, puisqu'il a décidé de leur donner par ma médiation. Donc, la médiation de l'Église est nécessaire pour faire ce qu'il a fait. Et donc, le troisième sacrement, disons, qui fait presque le tritique qui est l'essentiel, mais comprenez bien quand je dis l'essentiel, c'est-à-dire qui va donner le sens à tous les autres sacrements, c'est l'Eucharistie. Parce que là, recevant ce don du Christ de son corps et de son sang, nous pouvons l'offrir dans cette activité sacerdotale pour le monde entier. Et les autres sacrements. La confirmation. Elle fait de notre affaire, la confirmation. Tout est oublié. Voilà, l'argument. Il ne faut pas la renouveler. L'argument. C'est juste, donne un caractère. Quel caractère ? La force, est-ce que c'est le caractère, la force ? Caractère, c'est cette capacité, cette puissance qui va nous permettre d'avoir une action nouvelle. Quelle est l'action propre qui est confirmée ? Témoignage. Et quand on dit témoignage, je précise un peu. Le martyr. Oui. Quand on dit martyr, c'est la même chose que témoin. Hein. Et le baptême, ça ne marche pas, ça ? Pas forcément.
Être prêtre parmi les laïcs.
Être prêtre parmi les laïcs. Oui.
Témoigner.
Ah oui, vous voulez dire. Ah oui. Être prêtre parmi les laïcs, justement les laïcs. Les laïcs, ce sont les prêtres. Christus fidèles, les fidèles du Christ. Laïc, c'est un terme qui est. Laïque s'oppose à clair. Alors, quand vous prenez le terme laïque, ça veut dire non clair. Non. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire être témoin dans le monde. N'est-ce pas ? Voilà. Je crois que le prof du caractère de la confirmation, c'est que c'est. Vous savez que l'agir du Christ, il doit agir. Bien sûr, il est celui du sacerdoce, fondamentalement, c'est celui du sacerdoce, la prière pour les autres. Mais c'est aussi, comme on l'a dit, n'est-ce pas, c'est pourquoi, persévérant, il doit s'offrir en victime, voilà le sacerdoce, mais ensuite porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison de toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. C'est-à-dire, au cœur de ce monde, avoir la capacité de faire germer le royaume de Dieu. C'est toute la dimension du sacerdoce royal, enfin, de la dimension royale, disons, de la grâce chrétienne. Mais c'est important de creuser. Mais il y a, comme vous voulez, une maturité nouvelle. Et on peut toujours prier, l'enfant peut prier. Mais il ne peut pas encore agir dans la cité. Il faut qu'il atteigne une maturité pour qu'il agisse et que cette médiation qu'il y a entre Dieu et la cité, il l'incarne de façon plus nette, de façon plus forte. Donc, le la confirmation donne, d'ailleurs je vais vous lire, hein, les fidèles incorporés à l'Église par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien. Ce sont des mots maintenant qui doivent vous être, n'est-ce pas, habituels. Devenus fils de Dieu par une régénération, ils sont tenus, à cause de ce baptême, de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu. Ça, c'est le dette, la dette. Vous êtes mandaté, il vous est demandé de professer votre foi. C'est pourquoi on vous demande à la messe du dimanche, au moins, il y a un moment où vous puissiez professer votre foi. La rédiction. Voilà. Vous vous confirmez. Devenu par le sacrement de confirmation, leur lien avec l'Église est rendu plus parfait. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint et obligés ainsi, plus strictement, tout à la fois à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Avis. Ils sont obligés de s'appuyer, n'est-ce pas, sur leur grâce pour répandre et défendre la foi par la parole et par l'action. Là, le concile n'est pas mouillé, il n'a pas parlé de caractère. J'insiste pas. Saint Thomas est très, très fort, il parle de caractère. Participant au sacrifice eucharistique, le troisième sacrement, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine dans le sacrement et s'offrent eux-mêmes avec elle. Parce que c'est important de comprendre ça. Et ça, je pense que vous verrez quand vous allez faire ici. On a vu que le sacrifice est un acte extérieur de la vertu de religion. Or, cet acte extérieur suppose un acte intérieur. Donc, c'est bien d'offrir le Christ, mais ça n'est un acte religieux que si en offrant le Christ, je m'offre moi-même. Donc, ils offrent à Dieu la victime et s'offrent eux-mêmes avec elle. Sans quoi ce n'est pas un acte religieux. Ainsi, tant par l'oblation que par la communion, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action du corps. Chacun de nous est dans le corps un membre, et chacun de nous est indispensable à l'action eucharistique. Il s'ensuit que restauré par le corps du Christ, au cours de la Sainte Liturgie Eucharistique, il manifeste sous une forme concrète l'unité du peuple de Dieu que ce très grand sacrement signifie en perfection et réalise admirablement. C'est ce que dit la théologie quand elle dit que la fin de l'Eucharistie, la réalité que réalise l'Eucharistie, c'est le corps du ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence. Pénitence, je recherche la pénitence avec la vie. J'explique. Parce qu'en fait, pour offrir un sacrifice qui plaît à Dieu, il faut être agréable à Dieu. Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence, ils reçoivent
de la miséricorde de Dieu, le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite, et de même coup sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessé, et qui par la charité, l'exemple, les prières, travaillent à leur conversion.
Parce que concrètement, dans l'Eucharistie, j'ai offert le sacrifice de l'Église. Or, par mon péché, je me suis coupé de l'Église. Comment voulez-vous que je fasse une œuvre avec mes frères si dans mon péché, je suis en séparation? Je dis le Christ, quand tu viens présenter ton offrande, et tu te rends compte que tu as quelque chose que tu contre ton frère, dépose à ton offrande, va te réconcilier avec lui. Donc, vous voyez, c'est parce que c'est une offrande de l'Église, il faut qu'il y ait une communion. C'est pas pour rien que je commence l'Eucharistie par la reconnaissance de mon péché et la demande du pardon. Parce que c'est nécessaire pour que ce soit vraiment une offrande d'un corps qui est un. Ça ne veut pas dire qu'il faut se confesser avant chaque Eucharistie. Hein? Ce que je veux dire, c'est que elle nous est donnée, ce sacrement nous est donné pour mettre en nous une capacité d'unité, pour réparer en nous tout ce qui nous divise, et donc pour nous permettre d'exercer pleinement notre sacerdoce. Ceux qui sont habitués à la pénitence, au sacrement, savent que l'exercice de leur vie chrétienne est entravé quand ils n'ont pas pu vivre du sacrement. Je crois qu'il faudrait en parler, hein, du sacrement, en pénitence. Comprendre que c'est une aide, une guérison, que l'âme qui a été blessée par le péché est guérie et réconciliée. Et étant guérie, vous voyez, c'est quand vous n'avez qu'à imaginer une marmite, eh bien, si c'est une passoire, vous ne gardez pas longtemps. Les péchés sont comme des ouvertures qui nous font perdre notre esprit. Et que vous vouliez ou non, on s'essouffle très vite dans notre vie chrétienne quand on ne vit pas du sacrement de pénitence. Et il est impossible aux chrétiens, d'ailleurs l'Église le dit, puisque l'obligation du sacrement de pénitence au moins une fois l'an, qui correspond à l'obligation de la Pâque, n'est-ce pas ? Il faut au moins une fois offrir le sacrifice eucharistique. Eh bien, il faut au moins une fois vivre du sacrement de pénitence. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas vivre ma mission chrétienne dans le monde si je ne suis pas fortifié, c'est-à-dire guéri des blessures, des fautes que sans cesse je fais. Chaque fois je suis affaibli, et donc il ne faut pas s'étonner que ça me devient très difficile d'aller prier, ça me devient très difficile d'aller témoigner, ça me devient très difficile d'aller prêcher, j'ai envie de me tailler tout le temps, parce qu'on est faible, on est faible. J'ai du mal à aimer mon frère aussi. J'ai du mal à offrir ma vie. Parce que vous voulez, je suis boiteux. Je ne peux pas courir comme celui qui est en pleine santé. Or, pour prier, pour offrir sa vie, il faut une plénitude de vie. Et le sacrement de pénitence nous est donné justement pour qu'on soit des vrais vivants par lesquels on peut offrir à Dieu ce sacrifice. Et de toute notre vie faire un sacrifice. Par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c'est l'Église tout entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'il les soulage et les sauve. Bien mieux, il les exhorte en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. L'onction des malades, l'onction, quel est son rôle?
c'est dans le sacrifice ultime de sa vie, pouvoir faire l'acte sacerdotal, pouvoir faire de la fin de nos jours, et particulièrement de notre mort, un acte sacerdotal. C'est-à-dire le don de notre vie pour les autres. Ça demande une action du Christ, oui, c'est toujours la dimension sacerdotale. Même la pénitence, c'est pour être mieux prêtre. L'onction des malades, c'est pour être prêtre quand on est malade. Le pape insiste beaucoup dans son encyclique sur la souffrance humaine, pour montrer aux fidèles leur rôle particulier dans la souffrance, dans la maladie, dans la vieillesse. Et par ce sacrement, on est comme associé plus intimement au Christ qui offre sa vie. On est comme aidé pour faire le don de notre vie. Comme un don sacerdotal. Quant à ceux parmi les fidèles qui reçoivent l'honneur de l'ordre sacré, c'est pour être par la parole et la grâce de Dieu les pasteurs de l'Église qui sont institués au nom du Christ. Ce qu'on a vu, c'est l'ordre. Enfin, par la vertu du sacrement de mariage, alors là, vous êtes concernés, qui leur donne de signifier en y participant le mystère de l'unité et de l'amour fécond entre le Christ et l'Église. Cette unité-là, voilà le sacrement du mariage. Et donc, l'unité du Christ et de l'Église qui est rendue visible dans le sacrement du mariage. Et non seulement signifiée, mais réalisée. Participe le mystère de l'unité et de l'amour fécond entre le Christ et l'Église. Les époux chrétiens s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. En leur état de vie, ils ont ainsi leur don propre qui est intérieur au peuple de Dieu. De leur union, en effet, procède la famille où naissent des membres nouveaux de la cité des hommes dont la grâce de l'Esprit-Saint fera par le baptême des fils de Dieu pour que le peuple de Dieu se perpétue. Et de même que le Christ appelle l'Église, vous voyez, et que l'Église, le Christ dans l'Église, fait les baptisés, de même le mystère du sacerdoce, le mystère du mariage se réalise, n'est-ce pas, comme un appel, une occasion d'appeler le monde à rentrer dans ce mystère. Il faut que par la parole et par l'exemple, dans cette sorte d'église qu'est le foyer, les parents soient pour leurs enfants les premiers héros de la foi au service de la vocation propre de chacun, et tout spécialement de la vocation sacrée. Chacun des époux est à son époux le Christ à l'Église, dit un peu. Celui qui donne sa vie pour le salut de son époux. Mais donc, le mariage, c'est comme le sacrement du mystère de l'Église. Cette Église qui est féconde. Et le mariage, c'est comme le sacrement par lequel ce mystère d'unité du Christ et de l'Église se réalise dans un foyer pour qu'il soit signe de ce mystère dans le monde. Pourvu de moyens sanitaires d'une telle abondance, d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dans la perfection et celle même du Père. Quelle est la sainteté à l'intérieur de tous ces sacrements, hein? C'est ce qui fait d'être, d'offrir à Dieu ce culte des fils. C'est un bon marathon, hein? Je suis désolé, mais j'ai pris mon contrat. Hein? Bon. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ou ça va? Vous êtes... Oui? Oui, ça répond à la question. Quelle est la différence entre l'homme religieux et un religieux? Comme par exemple un frère Saint-Jean. La vie religieuse n'est autre que l'explicitation du sacerdoce baptême. En fait, il n'y a rien de plus, il ne peut rien y avoir de plus que le sacerdoce baptismal. Enfin, avec la confirmation, parce que vous remarquerez qu'on ne fait pas profession, ce n'est pas confirmé. Ce qui prouve que c'est l'explicitation, c'est dans la ligne même, la vie religieuse, à sa source dans le baptême et la confirmation. En fait, il n'y a pas d'autre sacrement. Parce que la vie religieuse donne à l'Église le témoignage qu'est la vie chrétienne. L'offrande de notre vie dans la soumission au Christ, dans l'unité de l'Église du Christ, dans la communion au Christ, pour le monde. Je crois que le rôle de la vie religieuse, c'est bien sûr la sainteté des religieux, mais au niveau de l'Église, la grâce, le charisme de la vie religieuse, c'est le signe de l'exigence baptismale. Enfin, quand je dis baptismale, du sacerdoce du fidèle. La vie religieuse est le lieu par excellence où est explicité le sacerdoce du fidèle. Il est explicité d'une façon particulière pour être signe, mais sacerdoce qui doit être vécu par chacun des fidèles. Vous voyez, les fidèles apprennent auprès de la vie religieuse ce que doit être leur vie. Normalement. Hein. Pourquoi je veux dire qu'il y a un sacerdoce particulier pour le mariage, un sacrement particulier? Parce que c'est l'unité entre l'époux et l'épouse qui est sacramentelle, qui est signe. Parce qu'il s'agit d'être signe de l'unité entre le Christ et l'Église. Là, il s'agit de l'exercice du sacerdoce. C'est-à-dire que là, il s'agit de manifester l'unité, la fécondité entre le Christ et l'Église. C'est tout à fait autre chose. Disons, c'est autre chose. C'est complémentaire. Hein? Là, la vie religieuse, dans son lien au Christ, il est supposé, hein, le lien au Christ, il est supposé, tandis que dans le mariage, il est signifié. Je dirais, mais il y a les vœux quand même. Ah oui, il y a les vœux. Pardon? Oui. Pour prendre le langage du pape, c'est ça. Oui, il dit, c'est le mystère de l'épousaille avec le Christ. Mais qu'est-ce que vous dites, Paul? Est-ce que c'est pour être religieux, il faut vivre de cet exercice, de cette unité qu'il y a entre le fidèle et le Christ, entre l'Église et le Christ? C'est cette unité. Sinon, il n'y a aucune fécondité. Il n'y a pas de vie religieuse s'il n'y a pas l'unité avec le Christ, ça c'est sûr. Et il faut qu'elle soit sponsale pour qu'elle soit religieuse. Mais tout homme est appelé à être au cours du Christ. Chacun de nous, pas parce qu'on est religieux. Oui.
Si on est malade, oui. Peut-être de décider quoi.
Oui. À condition que ça soit pour une... Normalement, hein, la pratique pour une nouvelle force de la maladie ou une nouvelle maladie. Par exemple, les personnes âgées, à partir d'un certain chiffre, je ne dis pas ici, on rentre dans la vieillesse et on a besoin. La force du Christ pour pouvoir offrir notre vie. Bien, cette vieillesse,
s'il ne se passe rien, on n'a aucune raison de redonner le sacrement de l'ancien. Mais si d'un seul coup il y a cancer, le grand coup, hospitalisation et tout ça, alors là vous pouvez.
Vous n'avez pas parlé de l'extrémité.
Si vous voulez. On préfère parler donc sur des malades. Parce qu'il n'est pas toujours extrême.
C'est des bizarres. Non.
Non.
Pour vous, c'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. C'est le même sacrement. Il s'appelait l'extrême onction parce qu'on l'a donné à la fin, donc c'était à l'extrémité. Vous voyez que maintenant on rappelle qu'elle a un rôle qui est aussi de guérir, fortifier. Et quand l'âme est plus forte, elle peut lutter contre la maladie. Et par conséquent, on peut plus facilement en sortir. Donc c'est sûr que fortifiant, vous voyez, je ne donne pas l'onction des malades pour qu'il se soigne. Je la lui donne pour qu'il soit fort dans le don de sa vie. Et le don de sa vie peut très bien, c'est que ce ne soit pas maintenant, mais ce soit plus tard. Alors du coup, hop, on reprend le poil de la bête et on repart pour un tour. Et ça arrive souvent.
Et si le malade ne sait pas qu'il va donner sa vie, parce qu'il est mal, il est informé, il est malade quand même, mais tout simplement, s'il y a des sacrements pour
donner. Vous voyez, c'est là tout le problème de la pastorale. Vous ne me permettrez pas trop qu'on parle. Parce que c'est un point extrêmement délicat. Toute la question de savoir, vous voyez, est-ce que les gens savent leur vocation d'assistement? Est-ce que les gens savent le mystère de l'Eucharistie? Voilà. Alors la question de dire, est-ce qu'il faut quand même baptiser? Est-ce qu'il faut quand même célébrer l'Eucharistie? L'Église dit oui. Il y a des limites. Pour baptiser un enfant de non-croyant, il faut au moins des parrains marraines. L'idéal serait une communauté, comme vous dites. Ouais. Oui, mais n'agis pas sans nous. Encore une fois, le sacrement est un acte extérieur de la vertu de religion chrétienne. Par conséquent, il ne peut atteindre sa fin qu'avec l'acte intérieur. C'est pour ça qu'il faut éveiller la foi des fidèles. Si les gens sont baptisés et vivent l'Eucharistie et comme ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est un acte extérieur de la vertu de religion chrétienne. Par conséquent, il suppose la foi, l'espérance et la charité. Sans la foi, on n'offre pas l'Eucharistie. Sans la foi, on ne communie pas l'Eucharistie. Il n'y a pas de communion. Vous voyez ? C'est un acte extérieur. Comprenez bien. Ce n'est pas un acte comment je pourrais dire magique. Magique. Il y a sa valeur en lui-même. Et le prêtre, oui, tu as raison, tu as parfaitement raison, c'est très important.
Ce n'est pas toujours évident, parce que, surtout par exemple, quand on trouve deux personnes qu'on connaît, quand c'est un prêtre qu'on ne connaît pas, on nous demande ce qu'on veut. Quand on connaît le prêtre avec qui on vit, on connaît le caractère, le tempérament, alors on n'a pas toujours envie de dire ce qu'on veut.
Tu as raison.
J'aimerais savoir.
Alors, là, là, là. Il y a deux choses. Au niveau théologique d'abord, et au niveau pastoral ensuite. Alors, au niveau théologique, le prêtre doit juger si tu as la contrition. C'est-à-dire, est-ce que tu regrettes? Si tu regrettes que vraiment déjà tu es dans le Christ, tu es pardonné. Tu ne vas pas attendre que tu te confesses pour te pardonner. Hein? Tu ne vas pas attendre la confession pour être pardonné de ton péché. Si, sincèrement, tu regrettes, normalement, et que tu t'appuies sur le Christ, tu pardonnes. Alors pourquoi tu te confesses? Bien parce que ton péché t'a blessé, il a ouvert un trou dans la casserole. T'a blessé, il y a des pertes, voilà. Il y a des pertes. Eh bien,
si tu répares pas, eh bien tu seras faible. Donc tu te confesses, parce que ça correspond au commandement de Jésus, guérissez les malades. Les malades, ce sont ceux qui sont affaiblis et pour qui la vie d'enfant de Dieu est affaiblie. Ils peuvent très bien avoir demandé pardon à Dieu, il n'en reste pas moins, ils sont blessés. Donc, le sacrement de pénitence, c'est le lieu de la guérison. Mais c'est aussi le lieu de la plénitude du pardon, parce que notre contrition, elle n'est pas toujours parfaite. Et bien là, il y a toute l'Église qui s'empare de ta contrition et te permet d'aller jusqu'au bout. Elle t'aide, parce que par le sacrement, tu es uni à l'Église. Tu es uni à l'Église, et avec elle, tu vis le sacerdoce de Jésus. Parce qu'elle est tellement unie au Christ que grâce au sacrement, tu vis du sacerdoce de Jésus.
En fait, ça passe le principe, ça.
Non, non, mais justement, tu dis, alors maintenant parlons pastoral. Alors, le prêtre que tu connais, tu connais son caractère, alors, entends-toi avec le Seigneur, et comme tu dis, ne lui raconte pas tout. Très bien. Hein? Bon. Mais, dans ton cœur, hein, pas de camouflage. Maintenant, au fond, comment dire ça? Ce n'est pas au prêtre qu'on se confesse, c'est Christ. Et le Christ aime que tu ailles à lui, par le prêtre, mais que tu ailles à lui, tu ne t'arrêtes pas au prêtre. Hein? Et pour le prêtre, il n'y a rien de plus grand que de recevoir la confession de celui qui se confesse au Christ. Le prêtre se confesse, c'est ce que c'est. Lui.
Gêné personnellement par la cérémonie qu'il faut.